Radio Courtoisie,
indépendance totale.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Et on poursuit avec David Engels, chers auditeurs. Bonjour et merci d'être avec nous, David.
Bonjour, Liselotte.
Alors, la Grande-Bretagne est en train d'abolir les derniers pairs héréditaires de la Chambre des Lords, une petite réforme constitutionnelle, ou le dernier acte de la longue guerre menée par l'Europe contre l'autorité héréditaire, aussi imparfaitement représentée soit-elle.
Oui, tout à fait. Quand le gouvernement britannique a annoncé son intention d'abolir les derniers pairs héréditaires de la Chambre des Lords, cette décision a été largement présentée comme une modeste réforme constitutionnelle dont l'importance symbolique dépassait de loin néanmoins ses conséquences pratiques. Seuls 92 pairs héréditaires siègent encore à la Chambre haute, un vestige préservé après la réforme radicale des années 99 qui avait écarté plusieurs centaines d'aristocrates du Parlement. Leur présence a longtemps été considérée comme une curiosité historique, tolérée comme un genre de geste envers l'héritage constitutionnel britannique plutôt que défendue comme un élément essentiel de la vie politique. Et pourtant, la proposition actuelle visant à éliminer même ce dernier vestige de l'autorité héréditaire marque plus que l'achèvement d'une réforme législative entamée il y a un quart de siècle, car elle représente plutôt la fin d'un long chapitre historique où la responsabilité politique était encore liée à l'hérédité, à la lignée, à la transmission de l'autorité sociale d'une génération à l'autre. La disparition des pairs héréditaires de la Chambre des Lords invite donc à réfléchir non seulement à l'avenir de la constitution britannique, mais aussi à la transformation plus large des élites dans le monde européen. Alors pour comprendre l'importance de cette évolution, il faut se rappeler le rôle historique de la Chambre des Lords au sein du système politique britannique. Cette chambre est évidemment issue du Conseil royal médiéval, où les grands nobles et les évêques de haut rang se réunissaient autour du monarque pour délibérer sur les questions de gouvernance. Au fil des siècles, cette assemblée a progressivement acquis des fonctions législatives, formant donc la chambre haute d'un système parlementaire qui en est venu à équilibrer l'autorité royale, les privilèges aristocratiques et la représentation du peuple. Contrairement aux chambres hautes modernes, dont les membres sont généralement nommés ou élus indirectement, les Lords incarnaient à l'origine un principe profondément ancré dans la pensée politique médiévale. Ceux à qui étaient confiés des terres, des titres et des responsabilités familiales de longue date, avaient aussi des obligations envers la communauté. Au sein de la Constitution britannique, non écrite, cette continuité jouait un rôle stabilisateur important. L'aristocratie héréditaire formait une élite dont l'autorité tenait donc moins du succès électoral que d'une réputation acquise et de responsabilités héritées. Les familles, dont les noms figuraient dans la vie politique depuis des siècles, jouissaient d'une forme de légitimité qui ne dépendait pas donc des fluctuations de l'opinion politique et publique et qui a donné lieu à des brillantes carrières politiques encore jusqu'au XXe, même XXIe siècle. Ces personnalités étaient souvent critiquées pour leur conservatisme, mais ce conservatisme signifiait aussi que la Chambre des Lords servait, au moins parfois, de frein aux réformes soudaines ou irréfléchies, ou, comme l'avait dit la constitutionnaliste Lucy Atkinson, pour demander à la Chambre des communes de réfléchir à deux fois. Ainsi, au XIXe siècle, la Chambre a maintes fois contraint les gouvernements à reconsidérer des lois adoptées dans des moments d'enthousiasme politique, et même lorsque les Lords finissaient par céder, leurs interventions ralentissaient du moins le rythme du changement et permettaient de réfléchir aux conséquences à long terme. La Chambre haute incarnait ainsi le principe selon lequel l'ordre politique devait inclure des voix capables de parler au nom du passé, autant que du présent, aussi imparfaite que fut parfois cette défense.
Et quelles ont été les étapes du démantèlement de la Chambre des Lords ?
Eh bien, la critique moderne du pouvoir héréditaire s'est développée progressivement, parallèlement à l'expansion des idéaux démocratiques. À partir de la fin du XIXe siècle, l'idée que l'autorité législative puisse dépendre de la naissance plutôt que de l'élection est apparue de plus en plus incompatible avec la doctrine de l'égalité politique. Ainsi, la loi sur le Parlement de 1911 a considérablement réduit le pouvoir de veto des Lords, transformant la Chambre plutôt en un organe de révision plutôt qu'en une institution capable de bloquer indéfiniment la législation. Au cours du XXe siècle, la montée de l'idéologie méritocratique a renforcé ces évolutions car on attendait désormais que l'autorité politique repose sur le talent, sur l'expertise professionnelle ou un mandat démocratique. De ce point de vue, la Chambre des Lords semblait parfois n'être qu'une simple assemblée de pierres tombales, comme l'a si bien dit Arthur Balfour. À la fin du siècle, enfin, le principe héréditaire semblait totalement anachronique, même aux yeux de nombreux conservateurs, d'autant plus que la Chambre des Lords ne s'opposait que rarement aux transformations sociétales fondamentales, comme par exemple l'immigration massive, ou l'avortement, ou la délocalisation industrielle, ou le transfert des pouvoirs vers Bruxelles, il faut dire ça aussi. La réforme de 99 avait donc été adoptée avec relativement peu de résistance, supprimant la plupart des pairs héréditaires et ne laissant qu'un petit nombre élus en interne parmi eux à titre de compromis transitoire. Les partisans de la réforme actuelle soutiennent que même cette transition a tout simplement duré trop longtemps. Dans une société démocratique, affirme-t-il, le pouvoir législatif devait provenir soit d'une élection, soit d'une nomination fondée sur la compétence professionnelle. La persistance des législateurs héréditaires, reliant la Grande-Bretagne donc à ses origines historiques, semble en effet difficile à justifier à une époque qui se targue justement de mobilité sociale, de multiculturalisme, de l'égalité des chances. Et de plus, la Chambre des Lords compte aujourd'hui toute une série de pairs à vie, issus de divers horizons professionnels, des anciens juges, des diplomates, des universitaires, des officiers militaires, des fonctionnaires, dont l'expertise renforce sans doute la capacité de délibération de cette Chambre. De ce point de vue, l'abolition des pairs héréditaires représente l'aboutissement logique d'un processus qui a déjà transformé la Chambre haute en un organe composé en grande partie de personnalités publiques expérimentées et nommées par le gouvernement et donc par le roi. De plus, être issu d'une vieille famille ne garantit pas forcément une vision responsable, voire conservatrice, de la politique, comme l'avait déjà vivement critiqué nul autre que la célèbre Dame de Fer. Dans une remarque qu'elle avait faite à Woodrow Wyatt en 93, où elle disait, et je cite Thatcher ici, « Je ne m'étais pas rendu compte à quel point la Chambre des Lords est absolument inutile. Les Lords sont là, ils ne font que venir encaisser leurs 15 000 livres par an, ils n'ont aucun courage, ils devraient défendre la Grande-Bretagne contre le transfert de pouvoir à Maastricht, contre notre perte de souveraineté et notre perte d'identité. S'ils étaient des hommes de plus grande envergure, ils prendraient le risque. En fait, je pense qu'ils sont tout à fait inutiles et qu'ils devraient être abolis. Ils ne servent à rien du tout. » Fin de citation de Thatcher.
L'abolition de l'hérédité des lords, en dépit de ses raisons politiques tant de gauche que de droite, ne s'inscrit-elle pas aussi dans un contexte plus large de l'érosion progressive des structures élitaires traditionnelles, David Engels?
Oui, absolument. L'aristocratie, le clergé, la caste militaire et les professions libérales formaient autrefois des réseaux d'autorité qui s'étendaient au-delà de la politique électorale et transmettaient les derniers vestiges de la mémoire culturelle, des normes sociales et d'un sens des responsabilités à long terme, à travers les générations. Leur déclin a donc coïncidé avec l'émergence de nouvelles élites définies principalement par leurs compétences managériales, leur visibilité médiatique ou leur expertise technique. Si ces personnalités possèdent effectivement, parfois, des compétences indéniables, leur autorité repose souvent sur des fondements bien plus fragiles. Le succès électoral dépend de la popularité à court terme, l'influence bureaucratique dépend de la position institutionnelle, le prestige médiatique dépend de l'attention du public, et tous dépendent le plus souvent de dons et d'autres formes de soutien provenant de lobbies et de sponsors souvent obscurs. Aucune de ces formes d'autorité n'encourage nécessairement la vision à long terme que les élites héréditaires incarnaient autrefois et possèdent parfois encore. La Chambre des Lords traditionnelle a tenté, même si c'était de manière imparfaite, d'atténuer ces tensions. Ses membres héréditaires incarnaient une philosophie politique selon laquelle la société n'était pas simplement un ensemble d'individus, mais un partenariat s'étendant sur plusieurs générations, un contrat entre les vivants, les morts et les enfants à naître, comme l'avait si bien dit Burke. En accordant une voix législative à des familles dont l'identité politique s'était forgée au fil des siècles, les lords, du moins en théorie, ont institutionnalisé la présence de la mémoire historique au sein du processus législatif, comme l'avait d'ailleurs si bien formulé Robert Cecil dans un discours de 1881 où il disait, je cite, « J'espère sincèrement que la Chambre des lords continuera toujours à mériter votre confiance, qu'elle s'acquittera consciencieusement et fermement des devoirs pour lesquels je la crois éminemment qualifiée et qui consiste à représenter les souhaits permanents et durables de la nation par opposition aux impulsions passagères que certaines victoires électorales éphémères ont pu, dans certaines circonstances, insuffler aux décisions de l'autre chambre. Fin de citation. De toute évidence, la Chambre des Lords actuelle a finalement échoué dans sa mission. Mais cette institution représentait néanmoins un pouvoir qui, dans d'autres circonstances, aurait pu redevenir un gardien de la tradition, au lieu d'être un simple exécutant des caprices de l'opinion publique, ce qui est probablement la raison même pour laquelle ces derniers vestiges sont aujourd'hui abolis. En conclusion, on ne sait pas encore si les démocraties modernes peuvent ou veulent même maintenir des institutions stables sans ce genre de continuité. Car il est tout à fait possible que la Chambre des Lords nommée continue de fonctionner efficacement, comme une chambre de révision législative et d'examen par des experts. Le système constitutionnel britannique a souvent fait preuve d'une adaptabilité remarquable. Et de nombreux observateurs s'attendent à ce que les conséquences pratiques de la réforme restent limitées. Pourtant, il ne faut pas sous-estimer la portée symbolique de cette décision, surtout à une époque de profonde transformation identitaire du Royaume-Uni due à l'immigration massive et au multiculturalisme. La disparition définitive des législataires héréditaires marque le moment où l'un des plus grands principes politiques d'Europe, c'est-à-dire la transmission de l'autorité par la lignée, cesse de jouer un rôle officiel au sein de la Constitution britannique, signalant ainsi l'émergence d'une culture politique de plus en plus détachée de la mémoire historique qui la soutenait autrefois, aussi imparfaitement que cette mémoire ait été défendue au final par ses aristocrates.
Merci David Engels pour cette chronique et donc toutes ces explications. Je vous dis à lundi prochain.
À lundi.
Ligne droite, l'analyse.
Et nous poursuivons avec Alexandre de Galzin et Régis Le Sommier qui nous revient du Liban. Bonjour Régis.
Bonjour Liselotte.
Bonjour Régis. Alors,
bonjour Alexandre aussi.
Oui, exactement. On s'est déjà vu hors studio, mais qu'importe. Oui, vous revenez du Liban où effectivement la situation est quand même particulièrement tendue. Vous revenez donc pour un reportage Omerta qui sortira bientôt, on l'imagine.
On va essayer le plus vite possible parce qu'il y a plein de choses qui... On a du bon matériel, donc on a envie que ça, on a envie de témoigner, voilà.
Alors justement, témoigner de quoi, c'est la question qui se pose. Aux dernières nouvelles, on est à plus de 800 000 réfugiés, 850 000 réfugiés et plus de 850 morts aussi au Liban. Déjà, quel est l'état d'esprit de la population pour commencer?
C'est de la, on va dire, de l'extrême nervosité partout. Moi, c'était mon dixième séjour au Liban. Quand j'étais dans les années 2010, quand je couvrais la guerre en Syrie, je passais par le Liban. C'était le point de transit avant de traverser la plaine de la Beka et de rentrer en Syrie pour couvrir la guerre là-bas. Le Liban, c'était pour moi le sas de décompression. Quand je revenais deux semaines à Alep, par exemple, je passais par Beyrouth et ça me permettait de respirer. Bon, aujourd'hui, c'est devenu irrespirable. J'ai jamais vu le Liban dans un tel état. La nervosité est partout, on est obligé de faire très très attention. Nous, on a eu l'autorisation pendant quelques heures d'aller dans le fief du Hezbollah, un des fiefs du Hezbollah dans la plaine de la Beka, justement, dans la zone de Baalbek, et les gens sont à cran, ils sont prêts à vous prendre pour des espions, etc. On a eu la mésaventure de nous arrêter un petit peu au bord d'une route et d'être pris à partie par la population. C'est quelque chose de que je n'avais pas connu au Liban, mais c'est aussi valable dans d'autres communautés. Il y a une forme de suspicion en fait le Liban semble renouer avec ses démons. Un chauffeur de taxi me disait en traversant dans Beyrouth, là pour le coup dans le centre-ville, il me disait, vous savez, là on vient de traverser cet endroit là à une époque on pouvait pas traverser et je crains
parce qu'on rentrait dans un autre quartier,
oui. On part passer d'un quartier sunnite à un quartier chrétien, et il dit, moi je me souviens, pendant longtemps ici on pouvait pas passer et j'ai peur que à nouveau on ne puisse plus passer. C'est-à-dire que chez les Libanais, cette fameuse ligne verte qui traversait, qui séparait Beyrouth Est de Beyrouth Ouest est toujours dans les têtes. Alors, c'est différent aujourd'hui parce que le flot de réfugiés pour le moment suscite, on va dire, l'ascendant en fait, c'est les Libanais sont très accueillants naturellement. Donc vous avez des gens qui hébergent parfois plusieurs familles chez eux, qui viennent donner. Moi j'ai assisté à des scènes assez touchantes où vous avez des familles chiites pour la plupart qui sont le long de la corniche de Beyrouth, qui est l'équivalent de la croisette, on va dire, enfin à Cannes, qui est un lieu touristique, et vous avez des gens qui font leur jogging, bien des types en maillot, des centres de thalassothérapie, et juste à côté vous avez la misère qui s'étale avec ces réfugiés, et souvent, et là j'assistais à des dons de nourriture faits par un groupe qui s'appelle Sage Charbel, du nom du saint patron du Liban, donc des catholiques, des chrétiens qui venaient aider des musulmans, leur donner de la nourriture. Vous avez des scènes comme ça parce que les Libanais sont naturellement disposés à aider l'autre. Maintenant, le vrai problème avec ces populations, c'est que quand j'y étais, il y avait à peu près 700 000, je crois qu'on est passé à 1 million. Vous n'avez que 5 millions d'habitants au Liban. Alors imaginez 15-20 millions de Français qui se retrouvent sur les routes. Au départ, on les accueille et puis après, s'ils s'installent, en plus au Liban, avec ces fractures communautaires qui sont toujours sous-jacentes, évidemment, ça peut poser énormément de problèmes.
Sans compter qu'il faut rappeler qu'il y a quand même 1,5 million de réfugiés syriens qui sont déjà sur le sol libanais.
Qui posaient beaucoup de problèmes déjà.
Qui posent des problèmes, on va dire, d'immigration dans le sens le plus classique du terme. Petite question quand même. Au niveau stratégique au Liban, quelle est la situation actuellement ? C'est-à-dire, est-ce que tout le sud du pays a été rasé ? Est-ce qu'il y a encore des gens qui sont restés dans le sud du Liban ? Est-ce que Israël a franchi la frontière ? Est-ce que Tsahal est donc occupe le sud du Liban ? Où on en est sur le plan stratégique ?
Alors, sur le plan stratégique, on va surprendre en fait géographiquement. Nous, on est descendu jusqu'à... on n'est pas descendu dans l'extrême sud. On a pas mal travaillé du côté de Saïda, dans le quartier sunnite d'ailleurs, qui accueillait beaucoup de réfugiés chiites, donc vous voyez toutes les communautés un petit peu s'entraident. Pour le moment les combats sont sectorisés. Là, le village qui attire toutes les crispations et tous les affrontements, c'est le village de Khiam, où là il y a une vraie bataille au sol, corps à corps, entre l'armée israélienne et le Hezbollah. Un certain nombre de villages ont été évacués, d'autres villages ne sont pas évacués, d'autres villages refusent d'être évacués, donc vous avez un flot continu de réfugiés qui reviennent du sud. Tout n'est pas absolument détruit, hein. Alors la ville de Tyr a connu pas mal de dégradations, mais si vous voulez, pour le moment, on n'est qu'à la première étape de cette incursion israélienne qui, si elle se concrétise en occupation, ne devrait pas dépasser la fameuse rivière Litani, et cette espèce de frontière un peu qui existe depuis très longtemps. C'est un objectif que les Israéliens avaient depuis bien avant l'existence du Hezbollah. Ben Gourion parlait d'étendre le territoire de Eretz Israël, justement du Grand Israël, jusqu'au fleuve Litani. Donc, si vous voulez, c'est une zone convoitée par Israël depuis longtemps. Là, le prétexte, évidemment, c'est la présence du Hezbollah, présence massive, mais présence aussi en termes de missiles, puisque le Hezbollah est quand même capable, la semaine dernière, a été jusqu'à lancer 200 roquettes et drones en une seule nuit, quoi. Donc, il a encore une opérabilité intense.
Justement, la question qui se pose, c'est sur qui les Libanais rejettent-ils la faute ? C'est-à-dire que d'un côté, on a le Hezbollah qui a... Israël, pardon, qui a attaqué l'Iran, si on fait la chronologie, avec les États-Unis. En réponse, le Hezbollah qui a, lui, attaqué Israël en envoyant effectivement plusieurs centaines de missiles. Je crois qu'il n'y a eu aucun mort pour l'instant venant du Hezbollah en Israël. En réponse, Israël qui effectivement fait ses frappes qui provoquent donc plus de 800 morts et 1 million de réfugiés. Les Libanais, sur qui font-ils reposer la faute ?
Tout dépend. Alors là, encore une fois, on est dans un paradoxe, puisque les Libanais en fait se retrouvent dans une situation, donc j'expliquais les craintes le risque de retour à la guerre civile, parce que ces réfugiés, s'ils s'installent sur des zones chrétiennes, par exemple, et qui sont chiites, évidemment, si c'est amené à durer, s'ils ne retournent pas, parce que vous avez aussi des réfugiés qui ont déjà fait deux fois l'aller-retour, oui, avec la guerre du Hezbollah et d'Israël l'année dernière. Donc vous avez des gens, vous leur dites, oui, je suis là, et il dit, j'étais là déjà l'année dernière, oui, je suis revenu dans mon village.
Le Hezbollah a même aidé à reconstruire, en fait, des villages, en l'occurrence, chiites, dans, oui, certaines zones.
Oui, ah, oui. Mais le problème aussi, c'est que le Hezbollah va avoir tendance à se diluer dans la population, dans la mesure où avant, il était dans les zones chiites, qu'il protégeait. Là, aujourd'hui, il est un peu partout, le Hezbollah, mmh, avec ses déplacés, remonte un problème, et remonte aussi, voilà, une attitude particulière. Donc, si vous voulez, pour résumer, vous avez, on va dire, des gens qui sont attentistes, beaucoup, qui refusent et le Hezbollah et Israël. Mmh. Ça, c'est aussi une donne, parce que le Hezbollah, jusqu'en 2006, avait une cote de popularité très importante dans la société israélienne, parce qu'il avait d'abord résisté à la présence israélienne jusqu'en l'an 2000 au sud. En 2006, il y a eu à nouveau une guerre israélienne qui a fini par se retirer. À l'époque, le Premier ministre, c'était Ehud Olmert. Il avait d'ailleurs essayé de tuer Nasrallah par trois fois sans y parvenir. Nasrallah étant ressorti de des décombres de Beyrouth Sud, qui avaient déjà été détruits, est apparu comme, on va dire, le sauveur du Liban à l'époque. Puis le Hezbollah, à la faveur de la guerre en Syrie, a commencé ses aventures internationales. Et c'est là où les Libanais ont commencé à le critiquer. C'est-à-dire, pourquoi se déployer sur d'autres fronts, faire mourir d'ailleurs des jeunes chiites en Syrie. Beaucoup de Libanais n'ont pas compris cette attitude du Hezbollah, décidée par Nasrallah. Et puis ensuite, évidemment, après le 7 octobre, le 8 octobre, le Hezbollah déclare la guerre à Israël. Mmh. Et là, à nouveau, c'est lui qui déclare la guerre. Donc, si vous voulez, c'est cette façon du Hezbollah de déclencher les conflits, aujourd'hui, n'est plus perçue comme une protection du Liban. Et c'est là où, même au sein de la communauté chiite, vous avez beaucoup de critiques du Hezbollah. Aussi, la question de l'importance de l'Iran, qui pilote son proxy. Et là, vous avez beaucoup de critiques venant de la communauté chiite. Vous avez, par exemple, la milice Amal, dirigée par Navi Berri, leader du Parlement, qui, eux, n'ont pas de prisme pro-iranien, vous voyez. Donc, tous les chiites ne sont pas du tout derrière le Hezbollah. Maintenant, c'est le plus puissant, c'est celui qui a les armes, et c'est là où le problème principal du Liban réside.
D'ailleurs, en termes de sièges au Parlement, il faut rappeler qu'ils représentent une dizaine de sièges seulement.
Bien sûr.
Ce qui est quand même important, mais dans le fond, ils sont assez marginalisés.
Oui, marginalisés, mais ils ont permis au président Joseph Aoun d'être élu.
Bien sûr.
Ils ont appuyé. C'est ça aussi le problème.
Il y a quand même beaucoup de parallèles qui me viennent en tête avec une situation qui est celle de Gaza. C'est-à-dire qu'on a, dans tous les cas, une offensive qui vient d'un groupe islamiste, donc le Hamas ou le Hezbollah, qui anciennement était extrêmement populaire dans chacune de ces zones, qui l'est moins devenu. Le Hezbollah, c'est plus par internationalisme, le Hamas, c'est plus par jusqu'au boutisme, on pourrait dire, et maintenant une zone dévastée. Est-ce que ça, quelque part, ça vaut le coup de faire ce parallèle? Est-ce que c'est pertinent de faire ce parallèle?
Je pense que c'est intéressant, sauf que la configuration du Liban n'est pas tout à fait la même que, d'abord, au niveau des groupes ethno-religieux, au niveau de l'impact du Hezbollah dans la population, au niveau de son action et surtout au niveau du souvenir de la guerre civile. Vous n'avez pas sur Gaza, vous avez une sorte de sur Gaza, vous avez d'abord une seule communauté, vous n'avez pas de chiites, tout le monde est sunnite au niveau religieux, et ensuite vous avez un groupe qui a prospéré à la faveur, on va dire, du désespoir palestinien quelque part, à la faveur de la non-application d'un certain nombre d'accords, et dans un espace extrêmement réduit, qui est la bande de Gaza, qui fait c'est 130 km sur 40, donc c'est tout petit. Je dirais pas que le Liban est très grand, mais le Liban c'est une autre réalité. Et on peut comparer en effet cette sorte de fuite en avant de ces deux groupes qui aujourd'hui jouent leur survie. C'est-à-dire lors de l'offensive israélienne à Gaza, il y avait la question des otages bien sûr, mais il y avait aussi l'avenir du Hamas. Avec le Hezbollah, on est dans une situation où l'avenir du Hezbollah est en jeu. Anthony Samari, qui est un des plumes de L'Orient le Jour, a écrit un papier qui s'appelle la dernière bataille du Hezbollah. Mmh. Qui veut dire dernière bataille, peut dire ok, on met tout et on meurt en héros. Pour les chiites, c'est très différent. Ça veut dire que le risque aussi de cette communauté, c'est d'être complètement ostracisée, alors qu'elle a eu, à l'époque où le Hezbollah était souverain et ultra puissant, c'était le haut du panier.
Mais
voilà.
Pardon, mais en l'occurrence, c'est exactement la même chose pour le Hamas, qui vit aussi sa dernière bataille. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, on voit que, dans le fond, ils se sont lancés dans une politique qui était soit nous survivons armés à Gaza, soit eh bien, il n'y aura aucun accord et on va poursuivre la guerre. D'ailleurs, le cessez-le-feu se maintient à Gaza, mais on observe qu'il n'y a aucune progression sur les accords de paix.
Non, bien sûr. Et ce qui est quand même très intéressant, c'est que vous pouvez aller au-delà, vous pouvez dire que l'Iran est dans cette situation aussi de jusque-boutisme. Ce qui donne quoi ? Ce qui donne lieu à quoi ? C'est-à-dire, sur la question de l'Iran, ou la question du Hezbollah, ou la question du Hamas à Gaza, ces trois groupes, quelque part, pour eux, c'est le Hezbollah dit on va vivre notre bataille de Karbala. La bataille de Karbala, c'est la bataille fondatrice des chiites, là où l'imam Hussein est tué. Vous savez, quand ils font Ashura tous les ans, ils se flagellent jusqu'au sang pour revivre le martyre de l'imam. Ce qui fait que chez le Hezbollah, le sacrifice suprême, le martyr, est la valeur suprême de ce groupe ethno-religieux. Ouais. Donc là aussi, on est face à des gens déterminés, qui n'ont pas peur de mourir, qui ont une pléthore de combattants. Ce qui est très intéressant quand on va dans les zones du Hezbollah, c'est de voir un petit peu l'écosystème. Vous avez tout un tas de villageois, tout un tas de jeunes qui grandissent et qui vivent avec, sur chaque poteau, la photo d'un martyr. Donc, si vous voulez, le martyr, c'est le sommet de la société.
C'est la même chose que, encore une fois, pour Sinon, Noir qui avait été tué et qui en fait l'une des premières réactions d'ailleurs analyse partagée par beaucoup, c'est que Israël a créé des martyrs pour 1000 ans aussi. Il y a en fait cette question dans les deux cas, et là je voudrais basculer un petit peu plus sur Israël en propre, de toujours la riposte disproportionnée à un degré formidable. C'est-à-dire qu'effectivement, encore une fois, il y a cette attaque qui vient du Hezbollah, qui initie la guerre, mais la riposte en face est d'une violence absolue, comme à Gaza, où encore une fois il y a une attaque qui est d'une violence terrible, mais la riposte en face, c'est un mort chez nous, 100 chez eux presque.
Oui,
en fait, c'est
ça
la mentalité.
C'est à peu près les proportions. Ouais.
Pourquoi cette mentalité israélienne qui pousse à, on va dire, autant de violence quelque part?
Je vais vous répondre en un seul mot: démographie. C'est-à-dire que ces groupes, que ce soit les Palestiniens ou que ce soit les chiites libanais ou même que ce soit les Iraniens, on connaît peut-être les Iraniens un peu moins, mais en tout cas ces populations connaissent un taux de démographique bien supérieur. D'ailleurs, certains disaient que dans la résolution de la question palestinienne, fallait-il une seule nation finalement ? Certains Palestiniens ont pris cette option-là en disant faisons une seule nation avec Israël, en tablant sur le fait que démographiquement, il mettrait finalement, il rendrait minoritaires les juifs au sein d'Israël. Et ça, c'est une réalité. Donc ça veut dire, quand on a un vivier de combattants, pas infini, mais aussi important, c'est sûr qu'on peut, qu'en face, il y a intérêt à y avoir une réponse, c'est un peu ce qui explique la logique israélienne, disproportionnée, parce que sinon, c'est quand Israël dit nous luttons pour notre survie, c'est quand même assez vrai.
Oui, mais on a l'impression aussi que la mentalité obsidionale d'Israël, en fait, ne fait que renforcer oui. finalement la justesse de cette mentalité. Enfin,
et en fait, pense que c'est
plus
deux...
ils sont assiégés, plus ils répliquent violemment, et ouais. plus ils répliquent violemment, plus ils ont de raison de se sentir assiégés. C'est-à-dire, en fait, on a l'impression d'une course en avant, et puis évidemment, avec Benjamin Netanyahou, qui risque toujours ses procès et qui a ses manœuvres.
Oui, c'est effectivement, je pense que le cas de Netanyahou et de ses procès est un peu secondaire dans le cas présent. Ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution de la rhétorique autour du conflit en Israël. Mmh. Vous avez le porte-parole de l'armée israélienne, Olivier Rafovitch, qui disait que c'était un combat de proportion biblique. Donc, utiliser déjà le terme biblique, on sait que aussi dans la majorité qui maintient Netanyahou au pouvoir, qui est très fragile, vous avez des éléments de la droite religieuse, Itamar Ben-Gvir et Smotrich également, qui eux activent justement ces notions, on va dire, de eschatologique, quoi. Et de l'autre côté, sur la question de l'Iran, dès le départ, depuis la révolution, depuis les prémices de la révolution islamique en 1979, le qualificatif de grand Satan et de petit Satan, oui. grand Satan pour les États-Unis, petit Satan pour Israël, c'était le vocabulaire de Khomeini. Et aujourd'hui, il est toujours utilisé et on est toujours dans cette. On est face à. Quand au bout du compte, dans ces guerres, la donne religieuse domine, là, effectivement, vous avez d'abord des conflits qui vont durer, parce que avant d'obtenir le pardon d'arriver à des cessez-le-feu ou des accords, il va se passer du temps. Les cessez-le-feu d'ailleurs et les accords n'interviennent en général que pour des raisons pratiques, c'est-à-dire on fait un cessez-le-feu ou on fait calmer les hostilités pour le coup d'après. On le voit à la fois pour Israël, mais on le voit aussi pour le Hezbollah, qui pendant la question depuis novembre 2024, date du cessez-le-feu avec Israël, a, on va dire, encaissé pas mal de violations de ce cessez-le-feu de la part d'Israël pour finalement ne pas répondre et se préparer à la guerre d'après qui est celle d'aujourd'hui. Et on a été surpris, et je pense que les Américains et les Israéliens ont été surpris, un, par la capacité de riposte de l'Iran, ça c'est évident, mais la capacité de nuisance de l'Iran, le fait qu'elle tienne aujourd'hui une partie de l'économie mondiale sous le feu de ses drones et de ses missiles, et que du point de vue du Hezbollah, eh bien on nous avait dit, et il faut faire extrêmement attention aussi aux éléments de propagande chez nous. On avait dit le Hezbollah est amoindri, le Hezbollah a perdu beaucoup de ses missiles, 70% de sa capacité, etc., etc., des chiffres comme ça. Et en réalité, on se rend compte que il a peut-être gagné, il a peut-être perdu en équipement, mais il a gagné en motivation. Et là, encore une fois, on est dans un monde chiite qu'on a tendance à considérer comme des adversaires fanatiques, mais fanatique, certes, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Nasrallah est tué, quand Khamenei est tué, pour un membre du Hezbollah, le but c'est de le rejoindre.
Oui.
Voilà, et le but c'est de le rejoindre, ça veut dire qu'on va sacrifier sa vie. Et moi, je n'ai pas été au combat, enfin, je n'ai pas couvert le Hezbollah, c'est impossible, mais j'ai été avec je prends une autre forme de fanatisme qui était Daesh, pendant la bataille de Mossoul. Je me souviens, j'avais un commandant, le colonel Mohanet, qui dirigeait une unité de la Golden Division, qui était une unité d'élite de l'armée irakienne, et qui me disait, un soir, il me dit, vous savez, le plus difficile que j'ai... Plus difficile dans ce combat pour moi, c'est que en face j'ai des gens qui veulent mourir,
oui.
et mes soldats ne veulent pas mourir.
Oui.
Et il dit ça fait une sacrée différence. Voilà. Et donc aujourd'hui les soldats israéliens engagés au Liban Sud sont face à des gens en plus qui ont cette capacité de dissimulation. Il y a une zone dans ce sud Liban que les Israéliens ont surnommé la jungle du Hezbollah. À chaque guerre, on tente de l'éviter. C'est-à-dire qu'ils sont cachés dans des tunnels.
Oui, qu'ils connaissent par cœur et qu'ils ont...
Les gamins, les jeunes combattants, voilà, peuvent rester, par exemple, deux jours avec une arme anti-char et tout à coup sortir. On les appelle les fantômes.
Oui.
Voilà. Alors, les Israéliens les ont surnommés comme ça.
Sur les Israéliens, justement, quelle est la situation interne aussi en Israël? Parce que forcément, la question qui se pose derrière tout ça, c'est est-ce que l'opinion publique israélienne soutient cette attaque contre l'Iran, soutient cette attaque contre le Liban, Est-ce que aujourd'hui ils ont pas, est-ce que soit ils ont peur d'être rentrés dans une spirale de la violence qui pourrait ne jamais s'arrêter au Moyen-Orient, ou alors est-ce qu'ils se disent Benjamin Netanyahou règle nos problèmes et effectivement c'est un il regagne en popularité.
Oui, je pense qu'il l'espère, mais là on est dans une guerre qui est soutenue, je crois, à plus de 90% par les Israéliens. Je crois que les sondages que j'ai vu passer se tournent autour de ça, qui est peut-être plus soutenu que, par exemple, l'entrée en guerre des Israéliens à la suite de l'opération de Gaza contre le Hezbollah au nord, où là, il y avait plus de voix qui disaient « il n'y a peut-être pas de nécessité, il faut terminer Gaza avant ». Bref, il y avait beaucoup de discussions dans la société israélienne, qui est une société très libre, qui est une société où les opinions, peut-être même plus libres que la nôtre en termes journalistiques. Et donc, il y avait plus de discussions. Là, actuellement, je pense que d'abord, l'ampleur de la riposte iranienne fait peur en Israël. Israël est un tout petit pays, l'Iran est immense. Ça aussi, c'est une des grandes choses qu'on avait effleurées pendant la guerre des 12 jours, mais dont on est en train de se rendre compte encore aujourd'hui, c'est que l'Iran, c'est 1,5 million de kilomètres carrés. Israël, c'est ridiculement petit à côté. Et quand les mollahs, autrefois, nous disaient « nous allons faire disparaître Israël de la carte », on n'avait pas vraiment la notion de ce que ça pouvait signifier et que ce qu'ils disaient avec leurs missiles, avec les recherches qu'ils ont fait depuis 20 ans, je rappelle qu'ils ont commencé, ils ont conçu leur premier missile balistique en 2003 avec un bout de missile nord-coréen et un bout de vieux missile soviétique. Et depuis, ils n'ont eu de cesse de fabriquer des missiles, utilisant d'ailleurs déjà, théorisant et mettant en pratique la guerre asymétrique qui allait se produire, dans laquelle on est aujourd'hui, c'est-à-dire que les Iraniens n'ont jamais investi dans des porte-avions, ils n'ont jamais investi dans des avions de chasse. Quand Trump se moque de leur marine, mais la mission de la marine iranienne, c'est de pouvoir bloquer le détroit d'Ormuz. Oui. La finalité, elle est là. C'est pas d'aller se faire des batailles navales. C'est-à-dire qu'en fait, on vit des guerres, nous, qui sont des guerres du passé. Et eux, et il y a des moments où on aurait pu prendre en considération, je prends cet exemple parce que j'ai beaucoup couvert la guerre en Ukraine et j'ai vu ce basculement, quand l'Iran est intervenu en Ukraine, c'est grâce au drone Shahid, qui est le drone qui pose problème actuellement, et c'était à l'hiver 2022, juste après le retrait de Kherson. Les drones iraniens bon marché à 20 000, 30 000 dollars sont arrivés en masse en Ukraine, et les stratèges du Pentagone se sont arrachés les cheveux, pour ceux qui n'étaient pas des généraux crâne d'œuf, vous voyez comme on les voit souvent, en se disant comment faire face à cette menace. Ça a été pas un game changer, mais ça a permis aux Russes, dès ce premier hiver, d'anéantir complètement une grosse partie du réseau électrique ukrainien.
Régis Sommier, vous dites qu'on vit des guerres.
Donc on avait cette expérience, c'est ça que je veux dire. On savait comment a-t-on pu ignorer que les Iraniens allaient l'utiliser.
Des drones, oui,
c'est quand même assez aberrant.
Mais justement, en fait, vous dites qu'on revit les guerres du passé, nous, occidentaux.
Oui.
Mais en fait, c'est aussi le cas de la part des autres pays du monde, dans le sens où on a l'impression que l'Iran vit un nouvel Irak,
oui.
On a l'impression que le Liban vit un nouveau Liban, quelque part. On a l'impression que, d'une certaine façon même, on vit de nouveaux Afghanistan, de nouveaux Vietnam en permanence. En fait, vous aviez cette formule hors plateau juste avant notre émission, mais il y a un côté où c'est un peu un jour sans fin,
oui.
Où on a l'impression qu'au Moyen-Orient, rien de nouveau.
Oui, j'ai piqué cette formule à mon ami Pierre-Yves Rougeron, qui dit, oui, c'est une adaptation moyen-orientale d'un jour sans fin. Qu'est-ce qu'il voulait dire ? Il voulait dire que aux mêmes décisions, les mêmes effets, il parle évidemment de la guerre en Irak, où au début du déclenchement de cette guerre contre l'Iran, j'ai cru à un copier-coller de ce qui se disait à l'époque.
Oui, il manquait presque la fiole et puis on était
bon. Mais dans une semaine, Steve Witkoff, chef des négociateurs, qui tout à coup nous explique que dans une semaine, l'Iran a la bombe atomique. Là, comme ça, alors qu'ils sont en négociation et qu'on nous a expliqué, le médiateur Omanet nous a expliqué que les choses étaient en bonne voie et qu'apparemment les Iraniens étaient assez d'accord pour donner leur uranium enrichi. Donc tout à coup on nous dit ça, tout à coup Marco Rubio lui prend un autre point de vue, il explique que ils sont en train de fabriquer des missiles qui vont atteindre les États-Unis. On l'avait dit exactement pour Saddam Hussein. Ouais. Et chez eux, ils sont alliés évidemment d'extrémistes. Bon, là, pas besoin de. C'était assez facile avec les gardiens de la Révolution. Mais en plus, ils martyrisent leur propre peuple. On avait dit la même chose sur Saddam Hussein.
Alors, je veux dire, c'est pas moins vrai, en l'occurrence, pour le fait qu'ils martyrisent leur peuple.
Mais tout à fait. Oui. Mais si vous voulez, vous avez une sorte de wording, on va dire, si, pour prendre cette expression moderne, plutôt d'éléments de langage. Oui. Qui sont un calque. Et quand on dit un jour sans fin, c'est-à-dire qu'on n'a absolument rien appris de la guerre asymétrique, de ce qu'une insurrection peut donner, de ce qu'une guerre civile, parce qu'attention, on n'en a pas fini, même si le régime des Mollahs disparaît, vous croyez que les gardiens de la Révolution, ils vont partir comme ça et ils vont accepter de l'argent et non. Donc ça veut dire que le potentiel de guerre civile est extrême. Donc en fait, tous les scénarios sont vers le scénario du pire. Et à un moment, on appuie sur le bouton en croyant en deux coups de cuillère à peau, trois avions, deux porte-avions, on va résoudre le problème. En fait, non. Et c'est toujours la même chose.
Eh bien, c'est toujours la même chose, mais c'est toujours aussi intéressant d'en parler avec vous. Merci, merci beaucoup, Régis Sommier, d'avoir été avec nous ce matin.
Vous aimez Radio Courtoisie, mais vous n'avez jamais, jamais donné, même pas 5 euros. Arrêtez de laisser payer les autres à votre place. Faites un don maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 Boulevard Murat, 75 016 Paris. Et vous verrez, vous vous sentirez mieux.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Et nous retrouvons notre chroniqueur Raphaël Audouard qui travaille donc pour la Fondation des Patriotes pour l'Europe. Bonjour et merci d'être avec nous.
Bonjour Islotte.
Dans quelques semaines, il y a une élection très importante pour l'avenir de l'Europe qui va se dérouler. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
Tout à fait. Le 12 avril prochain, les élections législatives auront lieu en Hongrie pour désigner le Premier ministre. En Hongrie, c'est le Premier ministre qui a le pouvoir. Donc Viktor Orbán était Premier ministre depuis 2010. Son parti, le Fidesz, est un des deux grands partis qui se présentera à ces élections. Mais en face de lui, pour la première fois, il y a un parti unifié qui s'oppose à lui, le parti de Peter Maguire, Tissa. Donc Peter Maguire, c'est un ancien membre du Fidesz qui a quitté le parti de Viktor Orbán pour créer son parti de centre-droit. Et aujourd'hui, les deux hommes, les deux partis, Tissa et le Fidesz, donc le parti de Viktor Orbán et le parti de Peter Maguire, sont au coude à coude dans les sondages.
Alors pourquoi ces élections sont si importantes ?
Aujourd'hui, Viktor Orbán et la Hongrie incarnent une résistance très forte à Bruxelles avec le groupe de Visegrad, donc qui regroupe la Pologne, la Hongrie, la République tchèque et la Slovaquie. Ils incarnaient pendant longtemps une opposition aux politiques bruxelloises, notamment sur la question de l'Ukraine, sur la question de l'immigration, sur la question de la défense de la souveraineté des nations aussi. Et donc une victoire de Peter Maguire, même si jamais ça reste un homme de droite, il ferait quand même un retour de la Hongrie dans le giron bruxellois et une inflexion sur ces questions-là. En fait.
Et alors, qui est favori dans les sondages pour le
aujourd'hui,
moment ?
Comme je l'ai dit, les deux hommes sont coude à coude. C'est extrêmement difficile de déterminer qui va l'emporter. Dans la plupart des sondages, les deux partis sont aux environs de 40%. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'en Hongrie, les instituts de sondage sont assez politisés, en fait. C'est-à-dire qu'on sait que certains instituts sont proches du pouvoir, on sait à l'inverse que certains instituts sont plutôt alignés sur l'opposition, et en fait, évidemment, les instituts de sondage favorables à Viktor Orbán le donnent vainqueur, et les instituts de sondage favorables à l'opposition donnent l'opposition vainqueur. C'est-à-dire, explique les déclarations assez triomphalistes dans les journaux libéraux et les journaux occidentaux en France et dans l'Europe de l'Ouest, qui annoncent que Peter Maguire va l'emporter, parce que selon eux, seuls les instituts de sondage opposés à Viktor Orbán ont raison. Et donc la situation, en réalité, c'est que les deux hommes sont extrêmement proches. On devrait finir sur un résultat très serré. Et en plus de cela, on a aussi trois petites candidatures qui existent. À droite, on a une candidature nationaliste de Mia Zank, qui se situe à droite de Viktor Orbán, et à l'inverse, du côté de l'opposition. Comme Peter Maguire est quand même un homme de centre-droit, on a quand même une candidature de centre-gauche qui se présente, la coalition démocrate, et on a aussi un petit parti humoristique, mais plutôt classé à gauche, qui se présente. Et donc il y aura aussi un enjeu de ce côté-là pour chacun des deux grands candidats de capter toutes les voix de leur camp et de savoir s'il y aura un effet vote utile. Et est-ce que Viktor Orbán réussira à convaincre les nationalistes de voter pour lui ? Est-ce qu'à l'inverse, Peter Maguire réussira à convaincre le centre-gauche de se tourner vers lui ? C'est aussi ça qui déterminera, en fait, à la fin, le vainqueur de l'élection.
Et qu'est-ce qui explique ces estimations aussi serrées ?
En fait, ce qu'on voit, c'est que les deux candidats ont des éléments qui les mettent en difficulté. Du côté de Viktor Orbán, il est au pouvoir depuis 16 ans, et donc forcément, il y a une usure du pouvoir. Il y a une partie de la population qui commence à être lassée de son gouvernement. On a aussi la situation économique difficile dans toute l'Europe qui forcément bénéficie à l'opposition. Et de l'autre côté, du côté de Peter Maguire, il y a le fait qu'il vienne de la droite. Donc effectivement, une partie de la population assez importante s'oppose à Viktor Orban. Au sein de ces personnes-là, on trouve aussi bien des gens de droite que des gens de gauche. Et c'est difficile pour Peter Maguire de capter un électorat de centre-gauche, sachant que lui-même a été un cadre du parti de Viktor Orban. Donc au début de la campagne, il était effectivement très haut dans les sondages, mais forcément, au fur et à mesure de la campagne, il est obligé de dévoiler ses positions. Et comme sa stratégie, c'est plutôt de dire bah, « En fait, moi, je vais continuer globalement ce que fait Viktor Orban, mais je vais revenir en fait dans le giron de Bruxelles. » C'est-à-dire, en fait, je vais continuer à avoir une politique d'immigration limitée, mais je vais quand même suivre un peu plus Bruxelles. Je vais continuer à ne pas soutenir l'Ukraine, mais je vais quand même essayer de me rapprocher de Bruxelles, tout ça. Ça fait qu'une partie de l'opposition se dit bah, « En fait, c'est pas un vrai opposant, en fait. » Et donc, il y a une partie de l'électorat de gauche qui pourrait être tentée d'aller voter soit de ne pas aller voter, soit d'aller voter pour un candidat de centre-gauche. On se trouve à cette situation où Peter Maguire a du mal à rassembler autour de lui l'ensemble de l'opposition, sachant en plus que c'est une élection législative, donc il y a des candidats locaux. Et donc forcément, localement, un électeur de gauche a forcément envie de voter pour un ancien cadre du Fidesz rallié à Peter Maguire dans sa circonscription. Donc c'est une élection très ouverte qui aura lieu dans un mois, et une élection qui pourrait voir la Hongrie et donc toute l'Europe basculer d'un côté ou de l'autre, puisqu'encore une fois, une victoire de Peter Maguire signifierait le retour dans le giron bruxellois d'un des pays les plus aujourd'hui opposés à Bruxelles.
Mais on va suivre ces élections, Raphaël Audouard. Elles auront lieu un dimanche, évidemment. Donc rendez-vous lundi 13 avril, chers auditeurs. On en discutera. Et puis comme c'est le jour où vous faites votre chronique, Raphaël Audouard, j'espère que vous commenterez ces résultats avec nous.
C'est ça. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Ligne droite, la revue de presse de Gilles Brochard.
Bonjour Gilles.
Bonjour Liselotte, bonjour Franck. Bonjour.
Je vous ai vu arriver en même pas petite, en grande foulée dans le studio,
oui.
Dès lundi matin. Vous êtes en forme. Ce premier tour des élections municipales, dites-nous tout.
Bah, vous savez, hier dans le JDD, Pascal Praud écrivait « Les dimanches d'élection sont des jours où il se passe quelque chose. Ils marquent parfois l'histoire, ils sont célébrés dans les familles comme un 14 juillet ou un 25 décembre. Les dimanches d'élection ressemblent aux finales de Coupe du Monde, aux Césars à la télévision ou aux après-midi de Roland-Garros, on s'en souvient. Alors je pense, chère Liselotte, qu'on se souviendra peut-être de la soirée d'hier, où malgré quelques bonnes surprises ici et là, tout semblait déjà joué, où tout semblait décevant, les sondages n'ayant pas été à la hauteur de l'enjeu électoral, puisque bien souvent, les pronostics ont été déjoués. Alors dans son éditorial du Parisien, et aujourd'hui en France, Nicolas Charbonneau écrit que le RN et ses alliés l'emportent ou arrivent en tête dans des villes comme Perpignan, Nice ou Toulon, quand de son côté, LFI réalise de très beaux scores et crée la surprise dans des communes comme Roubaix, Lille ou Toulouse. Chacun de ces deux partis, quels que soient les résultats du second tour, fera son entrée en nombre dans les conseils municipaux. Il y a donc une prime à la radicalisation, au discours, au programme de rupture et la confirmation d'une France qui oscille entre les extrêmes, une valse de laquelle les partis traditionnels et historiques, les fameux partis de gouvernement, semblent exclus. Alors il est vrai qu'hier, comme le souligne Nicolas Charbonneau, les discours et les commentaires étaient lugubres hier soir. Bruno Retailleau d'abord pour la LR, puis Olivier Faure pour le PS, avait la voix blanche, le ton funeste de chefs de parti qui n'ont pas l'air de croire eux-mêmes en leur chance de second tour. Quant aux macronistes, ils étaient aux abonnés absents. Alors comme le constate le politologue Pascal Perrineau, je note que LFI est assez forte dans les grandes villes universitaires et celles de quartiers où la mobilisation de la jeunesse a pu être payante. Pour le RN, ces résultats sont la confirmation d'une stratégie d'ancrage local entamée depuis de nombreuses années. Et résultats des courses, comme le note Alexis Brézé à la une du Figaro, décomposition, fragmentation, polarisation, le triomphe du macronisme, lui, saute aux yeux. Le président rêvait de dynamiter le paysage partisan, il l'a atomisé. Il a si complètement brouillé les cartes politiques qu'aucun joueur ne peut plus prétendre gagner seul la partie. Il prétendait faire barrage aux extrêmes, c'est tout l'inverse qui se produit.
Alors, il y a quand même de bonnes nouvelles du côté de Marseille, de Nice, de Cannes, de Perpignan, de Beaucaire, de Toulon, de Fréjus.
Oui, sur le site Boulevard Voltaire, Marc Baudrier titre son article « 50 ans après sa création, le RN réussit son implantation locale avant d'égrener la liste des petites villes conquises ». En reconduisant leur maire RN, écrit-il, ces Français ruinent le discours selon lequel la gestion du RN provoquerait le rejet massif des électeurs horrifiés. Dans ces villes, les administrés du RN ont essayé la potion et en redemande. De même, le patron de Reconquête, Éric Zemmour, s'est réjoui sur X. J'ai le plaisir de vous annoncer que Reconquête a remporté dès le premier tour plus d'une centaine de mairies partout en France. Pour le RN, la moisson n'est évidemment pas terminée. Le parti de Marine Le Pen et Jordan Bardella est en position très avantageuse à Toulon, avec Laure Lavalette qui obtient 42% des suffrages, doublant le score obtenu par le parti voilà 6 ans. À Nice, le patron de l'UDER, Éric Ciotti, dispose d'une longueur d'avance de plus de 10 points, avec 41,9% face à son meilleur adversaire, Christian Estrosi, 31%. Je ne sais pas si vous avez vu la mine de Christian Estrosi devant son micro, éructant en mauvais perdant. Je ne sais pas si vous l'avez vu.
Mais j'ai regardé, évidemment.
C'était quelque chose.
C'était un des résultats à surveiller.
Oui, absolument.
Cette ville de Nice. Est-ce qu'à Paris, tout est joué
J'avoue, cher Liselotte, que je ne comprends toujours pas le vote des Parisiens. Grégoire a plus de 37%, Chikourou a plus de 11%. Alors, Chikourou, 11%. Bon, face à Dati à 25,46%, c'est à croire que les Parisiens ne veulent pas le changement et semblent satisfaits de la politique de gauche menée depuis 18 ans.
Alors que pourtant, ils râlent. Hein.
Ils râlent, mais c'est jamais le bon. Et à moins qu'un sursaut ne réveille... les arrondissements. Toutefois, Sarah Knafo se qualifie avec 10,40% des voix, comptabilisant 84 809 voix. C'est, je l'avoue, une déception, alors que des sondages la voyaient à 12 ou 13%. Elle atteint son meilleur score dans le 16e, où elle se présentait, atteignant 22,53%, ce qui fait que si elle se maintenait, elle aurait déjà 4 sièges. Derrière, Jérémy Redler, le candidat Changer Paris, qui lui obtient 50,62%. Alors, si elle se maintient au second tour, elle pourrait donc obtenir des sièges, évidemment, dans cet arrondissement, mais... Elle s'est exprimée très tard hier en disant devant ses militants « Pour moi, qui ai commencé à 4% en 6 semaines, quel chemin parcouru grâce à vous. Notre ligne politique vient de faire une percée historique. C'est un magnifique résultat. » Et puis de son côté, Thierry Mariani n'a pas pu dépasser les 1,59% des voix, ce qui montre une fois de plus la difficulté pour le RN, qui n'était pas très soutenu, il faut bien le dire, de s'implanter dans la capitale.
Oui, je pense que le RN doit vraiment s'interroger sur la pertinence même de présenter des candidats dans la capitale. Peut-être affirmer une fracture claire justement avec cette capitale que beaucoup de Français critiquent.
Il faut une volonté, mais est-ce qu'il y a une vraie volonté de RN pour Paris? Voilà, c'est la question.
Vous avez lu sinon, rien à voir, un article... rien à voir. Comment les jeunes hommes sont devenus obsédés par leurs biceps? Si on parle de Louis Sarkozy, ça a peut-être un rapport.
Oui, peut-être, peut-être. Bon, lui, c'est sa défaite aussi. Enfin, je crois qu'il a 10%, 10 ou 11%.
Ouais.
Hein. Alors, oui, alors, si j'en parle, c'est qu'il y a une page qui est consacrée par Le Figaro qui révèle qu'aujourd'hui, 19% des 15-24 ans, je dis bien des 15-24 ans, hein, c'est pas les 25-40 ans, pratiquent le fitness ou la musculation devenue... l'une des trois disciplines les plus choisies au baccalauréat. Un phénomène qui s'explique d'abord par la multiplication des salles de sport à bas prix. Vous avez remarqué que je n'ai pas employé le mot anglais pour dire ça, j'ai transformé en ville. Des lieux particulièrement attractifs pour des jeunes puisqu'ils affichent des abonnements autour de 30 euros par mois. Hein, ça fait quoi? Même pas trois paquets de cigarettes. Et des horaires d'ouverture quasi continus. Certains proposent même l'accès aux machines 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Depuis quelques années, on remarque un glissement des pratiques sportives, observe de son côté Jérôme Auger, kinésithérapeute du sport et ostéopathe à Paris. On est passé d'une pratique un peu rigide avec des entraînements contraignants plusieurs fois par semaine et des compétitions le week-end comme pour le foot, à des activités plus libres et individuelles, footing, crossfit, yoga, pilates. Dans un environnement urbain où il est compliqué de trouver un terrain de tennis ou de basket, de s'entraîner à la voile ou au ski, la muscu s'avère bien plus accessible. Alors on peut lire aussi le témoignage de Maxime, 18 ans, qui a changé sa manière de s'alimenter, c'est une bonne nouvelle, depuis qu'il va à la salle de sport 4 fois par semaine, je ne sais pas comment il trouve le temps. Alors que j'allais souvent dans les fast-food avec mes copains, dit-il, je mange maintenant beaucoup plus équilibré avec 3 vrais repas par jour, et des aliments riches en protéines. Je consomme davantage d'œufs, de poulet et de dinde. Ma mère n'en revient toujours pas, que je lui demande de me faire du poisson brocoli, depuis que j'ai lu que c'était l'un des légumes préférés des bodybuilders, et peut-être de M. Macron aussi. Mieux se nourrir finalement, rien n'est perdu chez les jeunes.
Si ça peut démalbouffiser les gens, pourquoi pas, hein.
Bah oui, puis comme vous le disiez, c'est le prix de 3 paquets de cigarettes, donc si en plus il s'arrête de fumer, merveilleux.
Mais Franck, il y va 5 fois par semaine. Lui.
J'ai jamais mis les pieds dans ce genre de salle de ma vie, je suis aucunement omnibulé par mes biceps, si vous voulez tout savoir.
Si vous voulez, on en parle en zone libre.
Oui, voilà, c'est
il
ça.
Il en a naturellement.
Allez, zone libre.
Zone libre.
Oui, donc je disais.
Ouais. Ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution de la pratique sportive quand même, puisque sociologiquement, ça dit beaucoup. C'est, comme vous le disiez, ça devient individuel. C'est quelque chose qui est même plus centré sur la culture du corps. Il y a quand même un aspect assez narcissique, il faut le reconnaître. Bon, sauf ceux qui ensuite vont rechercher une performance plus physique ou bien qui s'entraînent. Certains vont à la salle de sport parce qu'en parallèle, ils sont inscrits dans des salles de boxe ou par exemple même font de la gym et ils ont besoin de renforcer certains groupes musculaires pour être plus performants par ailleurs. Ouais. Mais il y a quand même globalement ce regain du culte du corps et la volonté.
Et puis surtout, je pense que chez les 15-24 ans, ils sont motivés parce qu'ils savent qu'ils ont un pass en fait, pour aller quand ils veulent dans une salle. Donc, ils y vont beaucoup plus facilement.
C'est l'âge où on veut séduire aussi.
Absolument. Et moi, je le vois alors avec mon niveau avec mes étudiants en journalisme quand à l'heure du déjeuner j'en vois de plus en plus qui apportent leur nourriture dans des petits contenants, ils préparent, c'est eux qui le préparent ou leur mère ou leur sœur et ils font chauffer au micro-ondes. Alors j'ai fait un petit tour d'horizon et en effet, il y a des pâtes, il y a des brocolis, il y a plein de choses, des petits légumes et ils ne se précipitent pas forcément, faut dire que dans le quartier où on est, il n'y a pas de nourriture rapide. Donc, voilà, ils sont plutôt tentés à faire ça. Il y a des bons de boulangerie. Je peux vous dire qu'il y a les boulangeries de quartier marchent très, très bien dans certains quartiers où il y a des universités, des écoles, des bureaux. Ils ont compris la formule 10 ou 12 euros ou 9 euros. Vous avez un repas presque complet.
Bon, oui, avec des vrais plats dans des boîtes, plus des sandwichs, des panini.
Des salades ou des choses comme ça.
Mais Gilles, rapidement, vous nous confirmez que dans Paris, il y a des endroits où il n'y a pas de restaurant à malbouffe.
Écoutez, dans le 15e arrondissement, je pense que c'est l'arrondissement où il y a le moins de...
Excellent.
Voilà, exactement, dans le quartier de la rue d'Alésia et de la rue de la Convention, il n'y en a pas, là.
Oh là. Voilà. Merci Gilles pour cette revue de presse et puis ce petit sujet qui sort un peu la tête de l'actualité. Oui, c'est toujours agréable. Ben oui, il en faut. Je vous dis à demain. À demain aussi, chers auditeurs, si vous nous suiviez sur YouTube ou X, le direct prend forme. Enfin, vous pouvez continuer à nous écouter sur rc.fr ou bien sur la bande FM. N'hésitez pas. Je vous le rappelle, si vous nous quittez, la radio ne vit que grâce aux donateurs qui l'aident et qui la font vivre depuis maintenant presque 40 ans.
Exactement, Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui et nous espérons pour encore longtemps, grâce aux auditeurs qui se motivent, c'est ceux qui nous financent. Alors, si vous écoutez Radio Courtoisie mais que vous ne donnez pas encore, eh bien faites-le sans délai, s'il vous plaît, en fonction de vos moyens sur soutenir.rc.fr. Merci.
Merci d'avance, chers auditeurs. Tout de suite, on parle de l'affaire Bilongo. Vous n'en avez probablement pas entendu parler. Ce sont les révélations exclusives de Radio Courtoisie.
Ligne droite. Debout les Français.
Et contrairement à ce qu'on pouvait prévoir, nous débutons non pas en parlant des municipales, mais de Monsieur Bilongo. Nous sommes avec Pierre-Alexandre Bouclet, le président de la radio, chers auditeurs, et Julie Solveig, qui est journaliste chez nous. Bonjour à tous les deux et merci d'être avec nous ce matin.
Bonjour Liselotte. C'est presque lié au municipal, ce qu'on va dire.
Ouais, il y aura un lien, mais c'est ce que vous allez nous expliquer. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de Monsieur Bilongo ce matin? C'est parce que il semblerait que vous ayez trouvé des informations qui feraient référence à une vieille affaire. Monsieur Bilongo était soupçonné, chers auditeurs, de blanchiment, de fraude fiscale, d'abus de biens sociaux. Est-ce qu'on pourrait commencer par là, peut-être, Pierre-Alexandre, et donc rappeler ce qu'il était reproché à Carlos Martins Bilongo?
Alors ça, ce sont des vieilles affaires dont il a été blanchi. Il y a une note de Tracfin qui le disculpe. Ensuite, il y a une vieille affaire d'occupation d'un logement social qui était en fait attribué à sa mère et dont il a bénéficié en fait tout simplement après le décès de sa mère entre 2013 et 2022, sachant qu'à partir de 2018, alors qu'il possédait déjà deux appartements ou qu'il était en train de les acquérir, il l'a sous-loué à sa sœur et ça donc c'était illicite. Et lui dit que c'était parfaitement licite et qu'il s'en est expliqué avec l'office donc CDC Habitat, qui était le bailleur social donc de la Caisse des dépôts, et que sa sœur aurait quitté le logement social de manière parfaitement normale à la fin de l'année 2022. Donc ça, c'est la vieille affaire. Moi, ce qui s'est produit, c'est que dans mon petit casier, j'ai reçu deux nouveaux documents. L'un de ces documents est un jugement, et l'autre est un courriel qui concerne une expulsion en septembre 2023. C'est la sous-préfecture donc, qui écrit à tous les acteurs en copie ouverte. Alors, ce qu'il y a de bien en copie ouverte, c'est que bah, ça peut circuler et c'est ce qui s'est produit. Le jugement du 7 novembre 2022, donc, que j'ai reçu, stipule plusieurs choses. D'abord qu'en 2013, CDC Habitat, donc le bailleur social de la Caisse des dépôts, a consenti un bail à M. Emmanuel Bilongo, que la personne attaquée dans le jugement est bien M. Emmanuel Bilongo et tous les habitants de son chef. Ça veut dire, autrement dit, tous ceux qui dépendent de lui sous son toit. Et la question, notamment, c'est qui sont-ils ? Ensuite, que le 17 décembre 2021, un acte d'huissier a été délivré au locataire et qu'on lui commandait de payer 1 825 € au titre d'arriérés locatifs, donc des loyers impayés. Ensuite, il stipule que le bail a été résilié pour absence de paiement, le 18 février 2022. Ensuite, que le 17 juin 2022, époque où M. Bilongo devenait député d'ailleurs, CDC Habitat saisissait le tribunal de Gonesse. Ensuite, que le jugement stipulait que M. Emmanuel Bilongo et toute personne de son chef, donc les autres personnes qui vivaient là, devaient payer 3 507 € d'arriérés de loyer et d'autres frais, en précisant qu'il y avait eu absence totale de reprise du paiement, donc depuis 2022, qu'il devait payer une indemnité d'occupation de 560 € par mois en cas de maintien dans les lieux après la résiliation du bail, et qui avait eu lieu donc le 18 février 2022, et ça jusqu'à la libération des locaux. Et l'expulsion, donc, c'est le deuxième document que j'ai reçu, c'est un acte d'expulsion, pas un acte, mais c'est un courriel qui organise l'expulsion, et qui a été produit donc, par la chef du bureau de la sécurité intérieure et de l'ordre public de la sous-préfecture de Sarcelles, donc en gros c'est la sous-préfecture de police de Sarcelles, qui envoie un mail donc, à toutes les personnes concernées, donc les gens de CDC Habitat, les huissiers, les policiers, pour les informer que, là je cite, « faute de moyens policiers au commissariat de Sarcelles, il faut reporter l'expulsion prévue le 18 août à septembre 2023 ». Et la dame, c'est là où ça devient un peu curieux, précise que « cette expulsion Bilongo étant par ailleurs sensible, le commissariat de police souhaite organiser une réunion préparatoire courant septembre pour bien préparer cette opération ». Fin de citation. Alors là, je me dis, mais il y a un problème parce qu'en fait, M. Bilongo, Emmanuel, qui a arrêté de payer ses loyers courant 2022, qui est expulsé en septembre 2023, il y a un énorme souci, c'est qu'il est mort en 2016. Et là, quand même, on se dit, c'est un peu bizarre parce que pourquoi est-ce que l'expulsion d'un chauffeur de taxi décédé est-elle sensible ? Pourquoi est-ce qu'il faut une réunion préparatoire ? Qu'est-ce qu'il fallait préparer ? Et voilà, ça commence à poser donc beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions.
Mmh. Alors, donc, questions auxquelles vous avez essayé d'avoir des réponses, Julie Solveig, mais avec beaucoup de difficultés. Vous avez essayé d'enquêter sur le dossier.
Eh ben, c'est très simple, on n'a eu absolument aucune réponse. J'ai essayé de revenir, disons, à la base, donc en contactant le commissariat de Sarcelles, on nous a renvoyé vers Cergy. Cergy nous a renvoyé vers Sarcelles. Voilà. Sont tous renvoyés à la patate chaude en permanence. On a essayé de contacter des gens du ministère de l'Intérieur, aucune réponse. La seule personne qui nous a répondu nous a dit « je ne veux pas communiquer sur cette affaire
». Et pourquoi ?
Alors, à mon avis, il y a une sorte de climat de peur qui règne en général. On a eu 2-3 personnes au téléphone et on sent qu'il y a une angoisse, une anxiété à répondre. Donc ça pose aussi question de pourquoi. On a peur de répondre, ça rejoint un petit peu l'idée de l'opération sensible pour expulser un mort, pourquoi ça fait à ce point la peur. Et quand on a essayé de contacter le principal intéressé, donc Carlos Bilongo, pas de réponse non plus. Voilà.
Pierre-Alexandre Bouclet, j'imagine que vous êtes un peu déçu, vous auriez aimé avoir des réponses sur cette affaire, et on peut d'ailleurs débuter avec cette information, le fait que la personne qui était censée occuper le logement était en réalité décédée. Comment ça se fait qu'on le découvre seulement maintenant ?
Ah ben, c'est une énorme question. Et alors, sincèrement, moi, je le fais sans aucune intention, d'ailleurs, de mettre en cause quiconque. C'est-à-dire, nous n'accusons personne, mais simplement, ce jugement pose un énorme problème, qui est quand même, comment un mort peut-il rester logé officiellement dans un logement social 7 ans après sa mort ? Est-ce que sa mort a été déclarée ? Ça, c'est une vraie question. Qui a contrôlé, qui a versé les loyers ? jusque début 2022. Qui ? C'est quand même une question extrêmement importante. Qui a ensuite contrôlé la validité du locataire, qui a contrôlé qu'il était mort ? Est-ce que CDC Habitat fait des contrôles ? Est-ce que, enfin, voilà, comment on fait pour rester dans un logement 7 ans après sa mort ? Et qui occupe l'appartement à ce moment-là ? Alors, ce que l'on sait, c'est que CDC Habitat s'est soucié de l'affaire à cause des premiers loyers impayés. Mais encore une fois, donc, ça pose la question, qui a payé jusqu'en 2022 ? Qui vivait là ? Est-ce que Carlos Bilongo, dont on ne remet pas en question l'honnêteté, est-ce qu'il était au courant de l'identité des occupants ? Comment est-ce qu'il juge la procédure intentée à son père ? Est-ce que, encore une fois, il a été mis au courant par CDC Habitat ? Ou est-ce que ça s'est fait dans son dos ? Ce sont des vraies questions. Quel a été son rôle ? Est-ce que c'était lui l'interlocuteur ? Peut-être aussi, jusqu'en 2022. Est-ce que ses sœurs ont été associées à l'affaire ? Voilà, donc ce sont des graves dysfonctionnements au minimum dans la gestion des logements sociaux. Ça peut être aussi des fraudes. Et on sait que Carlos Bilongo donc, a eu un cas malheureux dont il s'est expliqué et qui apparemment est réglé. Mais là, il semblerait que c'est un autre logement social. Donc parce qu'il y a eu celui de sa sœur. Moi, je me suis demandé à un moment si ça ne pouvait pas être le même logement. Donc, je me suis renseigné. Apparemment, ce n'est pas le même bail, puisque là, lui parlait de sa mère. Là, on parle de son père. Ce n'est pas la même adresse. Je me suis, pour le coup, moi, une personne m'a répondu, mais bon. On parle d'un logement qui serait situé à exactement 1,7 km de celui de sa mère, donc pour lequel Carlos Bilongo avait été inquiété en 2022. Et Carlos Bilongo, pour l'appartement de sa mère, affirme s'être mis en règle fin 2022. Et là, on parle d'une expulsion en septembre 2023, donc avec 9 mois d'écart.
Oui.
Et on suppose que Carlos Bilongo n'a pas menti. Enfin, on suppose.
Et on espère qu'on aura confirmation Carlos Bilongo, puisque justement, vous le disiez, ça a quand même un lien avec les municipales, c'est qu'on est face à un responsable Absolument. Politique.
Oui, et puis surtout qui a beaucoup manifesté contre la pénurie de logements sociaux.
C'est ça.
Et qui estime que c'est mal géré et qu'il en manque. Alors évidemment, on se dit, c'est quand même ballot si jamais il était associé à des problèmes de logements sociaux à cause d'une occupation indue, par exemple. Bon, ça serait quand même un peu bizarre. D'autant qu'il y a même un troisième logement social. Alors, le logement dont moi je parle se trouve allé derrière les murs à la résidence des Neuf Arpents. Et celui de sa mère donc, se trouve apparemment, si ce qu'on m'a dit est exact, à 1,7 km. Mais il y a un troisième logement social, résidence des Neuf Arpents, à 200 mètres de celui du père, qui était le fonds de commerce, enfin qui était immatriculé, c'est le numéro qui correspond pardon, au numéro sirène du fonds de commerce de sa mère, qui avait localisé là son commerce de maroquinerie et textile. Et là encore, je n'accuse personne d'avoir fait des choses illicites, mais se pose la question de ce troisième logement social. Est-ce que il était un logement social affecté à un bail commercial ? Est-ce que ça a duré longtemps ? À qui ? Alors, il était attribué à Madame Bilongo. À quel usage était-il destiné ? Est-ce que c'était une location simultanée de son propre logement social à elle ? Et dans ce cas-là, est-ce qu'on a le droit d'avoir deux logements sociaux ?
Oui, ça fait beaucoup de logements sociaux pour la même famille et autour du même nom.
Bah oui, est-ce qu'on a le droit d'avoir deux logements sociaux pour la même personne, mais pour une activité commerciale et une activité de résidence privée ? Ou est-ce que c'était un précédent logement social dans lequel elle a simplement immatriculé son commerce et ça n'est pas illégal ? Mais simplement, on aurait voulu que les gens nous disent vous faites fausse route, ou bien oui, vous avez raison, c'est anormal et on va régler le problème. Et là, en fait, on est obligé de poser des tonnes et des tonnes de questions auxquelles le vrai problème, c'est que personne ne veut répondre. Que Carlos Bilongo ne réponde pas, à la limite, on se dit, c'est Carlos Bilongo, il ne veut pas parler à Radio Courtoisie, pourquoi pas ? Mais CDC Habitat, c'est quand même la Caisse des dépôts, et ils sont quand même mis devant, là, des graves questions, de graves questions. Je ne parle pas de dysfonctionnement, on n'en a pas encore la preuve, mais je parle de graves questionnements. C'est grave. Que la police ne veuille pas nous répondre, c'est quand même bizarre, ça n'est pas normal. La police a été associée à une expulsion notamment, l'expulsion d'un mort qui apparemment posait problème, on ne sait pas pourquoi, et en gros ce qu'on comprend c'est que ça fiche un peu la trouille de nous répondre. Julie ne le dit pas, mais elle a même été un peu raillée dans le commissariat parce que les gens ont rigolé, ont dit ah, ça sent mauvais.
Ah oui, ça sent pas bon. Ouais.
Ça sent pas bon.
Oui.
Bon. Pourquoi ça sent pas bon? Oui. C'est quand même étrange. Quoi. Qu'est-ce qui dérange? Qu'est-ce qui dérange vraiment? Voilà. Donc, ce sont les questions que nous, on aimerait poser.
Alors, on va continuer de les poser. On espère qu'on aura des réponses. En tout cas, on va continuer à les chercher. Merci, Julie, de travailler sur ce dossier. Est-ce que la justice française se pose les mêmes questions, Pierre-Alexandre Bouclé?
Je n'ai pas l'impression, pour être honnête. Non, là, en fait, ce qui serait vraiment important désormais, nous, je crois, honnêtement, on est allé un peu au bout de l'affaire d'un point de vue journalistique, c'est-à-dire, on a constaté qu'il y avait des dysfonctionnements, on a deux documents. J'ai ces deux documents, le jugement plus le courriel d'expulsion qu'on a reçu. J'ai trouvé, par mes petits moyens, les actes de décès des deux parents. Et
donc on est certain en tout cas qu'il y avait bien décès.
Ah oui, c'est sûr, certain. Voilà. Oui, monsieur Emmanuel Bilongo est mort.
Ça peut pas être un oncle ou...
Non, est mort en 2016. Il habitait dans la même zone, il exerçait le même métier que ce qui est connu pour le père de Carlos Bilongo. Donc non, ça, il n'y a pas de problème. La mère, on sait également qu'elle est morte à la toute fin 2012. Et maintenant, quand on pose toutes nos questions... et que ni les témoins, ni les acteurs, ni les autorités ne veulent répondre à des journalistes, on dit « ok, d'accord ». Mais ça veut dire aussi qu'il faut commencer à faire passer l'enquête à un stade supérieur, et je pense que pour laver l'honneur des gens qui n'ont rien fait de mal, et peut-être Carlos Bilongo en fait-il partie, peut-être les gens de CDC Habitat en font-ils partie, peut-être les policiers en font-ils partie, mais aussi peut-être pour clarifier une situation qui est quand même très louche, il serait bon que les policiers s'emparent du sujet, que peut-être des élus portent le sujet. En fait, il y a un énorme problème là-dedans, c'est qu'il existe un article, qui est l'article 40 de la procédure pénale. Cet article 40 stipule que tout agent de fonction publique ou assimilé, donc je pense que les agents de CDC Habitat, de la Caisse des dépôts, en font partie, des policiers en font partie à coup sûr et certain, donc... L'article 40 de la procédure pénale stipule que chaque agent de fonction publique ou assimilé est tenu de signaler au procureur de la République un délit qui serait porté à sa connaissance.
C'est ça.
Donc là, il y a un énorme sujet, c'est que pendant 7 ans, un mort a payé ses loyers, avant d'arrêter de les payer, et a été expulsé, et ça a créé une petite tension, parce que c'était une expulsion sensible, alors qu'il était mort. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a des délits qui auraient dû être portés à la connaissance du procureur et que certains agents de la fonction publique ou assimilés n'ont pas absolument respecté l'article 40.
À moins qu'on découvre l'existence d'un monde paranormal, effectivement, il y a...
Ah, c'est une autre hypothèse. C'est une autre hypothèse.
Merci beaucoup, Pierre-Alexandre Bouclé, d'avoir parlé de cette affaire. Merci encore une fois, Julie Solveig, de travailler là-dessus. On a compris que ça nécessitait beaucoup d'efforts, vu le manque de coopération. Et on espère qu'on aura des réponses à toutes ces questions.
Eh bien, on l'espère aussi.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite avec Liselotte Dutreuil.
Merci beaucoup chers auditeurs d'avoir été avec nous ce matin. On était ravis de vous offrir ce programme, de traiter avec vous les municipales, d'être présents sur le terrain hier soir. Si vous voulez qu'on puisse continuer, eh bien il faut soutenir la radio.
Il faut soutenir cette radio qui est probablement celle qui défend le mieux vos idées. J'espère que vous en conviendrez. Et si c'est le cas, eh bien faites un don à Radio Courtoisie pour soutenir son indépendance en allant sur soutenir.rc.fr. Soutenir.rc.fr. Mais vous pouvez aussi envoyer un chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris, libellé à l'ordre de Radio Courtoisie. Merci d'avance.
Oui, merci d'avance, chers auditeurs, et merci à ceux qui y donnent déjà. Quel sera le programme du jour?
Dans quelques secondes, en direct, Paroles et pensées de Jean-René Ladmiral avec un hommage à Jürgen Habermas. À midi, le libre journal de Michel de Rostolan, notre cher Liban, victime du conflit israélo-iranien. Histoires à la loupe à 15h30, à 16h populaire, vous avez dit populaire, 16h30 en toute bonne foi de France Andrieux, à 17h culture et politique de Richard Haddad et Pierre Henry pour l'Europe sous la menace islamiste. 17h30, restons courtois avec Pierre-Alexandre Bouclé, aujourd'hui un rendez-vous avec Yvan Rioufol, puis le rendez-vous de la réinformation. 19h30, le libre journal du lundi soir de René Petitjean. Et à 23h, la soirée musicale en compagnie de Claudia pour les génériques de Radio Courtoisie, 6e partie.
Un beau programme. Et puis demain, chers auditeurs, on se retrouve à 7h. C'est l'anniversaire du premier confinement, des attestations pouvoir sortir de chez vous. Donc on en discutera. Soyez au rendez-vous.
Je mettrai un masque et tout sera chouette.
Ouais.
Allez,
bonne journée.